vous êtes bien sur France Inter. Il est 13h. Le journal de la mi-journée avec Jérôme Val. Bonjour.
Bonjour à tous. Une voiture qui fonce sur des piétons près du Parlement britannique. Le scénario se répète à Londres. Ce matin, un véhicule a percuté des piétons et des cyclistes, faisant 3 blessés. Aucun n'est en danger de mort. Le conducteur, un homme de moins de 30 ans et qui était seul à bord, a été interpellé. Une enquête pour acte terroriste est ouverte. Nous serons à Londres dès le début de ce journal. L'Aquarius, toujours dans l'actualité. Le navire de SOS Méditerranée reste bloqué dans les eaux internationales, dans l'attente d'une solution pour accoster. La France n'a rien proposé officiellement. L'inflation au plus haut depuis 6 ans. Les prix à la consommation bondit de 2,3% le mois dernier. Pourquoi et quelles conséquences? Les réponses de l'invité de ce 13h sur Inter, un économiste au cabinet Euler Hermès. Au sommaire également, l'entreprise SpaceX qui est prête à envoyer des hommes dans l'espace et les orques de l'ouest du Canada qui ne peuvent plus donner naissance à des bébés viables à cause du manque de poissons. La météo en ce mardi 14 août, Jean-Pierre Hameau. Des orages dans le sud-est, plutôt bien ensoleillé ailleurs.
Oui Jérôme, les orages vont reprendre du service cet après-midi des Alpes-Maritimes à la Haute-Corse et partout ailleurs, le soleil va reprendre sa place dans un ciel parsemé de cumulus inoffensifs, excepté des frontières du nord-est aux Alpes du Nord en passant par la Franche-Comté où l'on pourra observer quelques averses isolées. Dans le sud, le soleil va briller généreusement. En contrepartie, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 80 km/h. Les températures repartent doucement à la hausse. Les maximales seront comprises entre 22 et 31 degrés.
Vos prévisions complètes à la fin de ce journal.
France Inter.
Londres, de nouveau frappé ce matin par un acte terroriste. Un homme en voiture a percuté plusieurs piétons et cyclistes dans le secteur du Parlement de Westminster. 2 blessés légers ont été hospitalisés. Le conducteur a été immédiatement interpellé, soupçonné d'actes terroristes, comme l'a indiqué il y a 1h30 la police britannique. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, retour sur les faits avec vous, Haute Soufi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de France Inter à Londres. L'homme a foncé sur des piétons au petit matin.
Oui, à 7h37 exactement, on le voit sur les vidéos de surveillance, il a brutalement changé de trajectoire, a percuté des piétons sur un passage protégé, puis des cyclistes, avant de s'engager sur une rampe d'accès au Parlement de Westminster et de s'encastrer sur une barrière de sécurité. Il est resté dans le véhicule et ce sont des policiers lourdement armés qui l'en ont extrait, l'ont arrêté, l'ont menotté et l'ont conduit dans un commissariat du sud de Londres. L'homme est âgé d'un peu moins de 30 ans et apparemment il était déjà connu des services de police.
Alors je le disais, Aude, une enquête pour acte terroriste a été ouverte et le conducteur est en train d'être interrogé.
Oui, mais selon Neil Basu, le chef de l'antiterrorisme britannique, il n'est pas coopératif. On ne sait donc toujours pas l'identité de cet homme, ni ses motivations. Pourquoi a-t-il décidé de projeter son véhicule sur cette rampe d'accès à Westminster, alors qu'en ce moment, le Parlement ne siège pas. Ce sont les vacances d'été. Les députés ne sont pas présents au Parlement. Et puis, il était 7h37, très tôt donc, et dans ce bâtiment assez. Cette heure-là, il n'y a que les membres des services de nettoyage et de restauration. Aucun fonctionnaire n'était déjà au travail et aucun député n'est censé venir pendant les vacances d'été. La police va donc chercher à comprendre ses motivations et fouille toujours le véhicule, une Ford Fiesta grise au bord de laquelle ils n'ont pas trouvé d'armes et pas non plus d'autres passagers.
Merci beaucoup, Haute Soufi, depuis Londres pour toutes ces précisions. Un périmètre de sécurité reste donc en place autour du Parlement, déjà théâtre d'une attaque en mars 2017. Une voiture avait mortellement fauché 4 passants sur le pont situé à quelques mètres. Le conducteur avait poignardé un policier avant d'être abattu. Des images très impressionnantes en Italie. Le viaduc de l'autoroute A10 qui enjambe une partie de la ville de Gênes s'est effondré vers midi, il y a une heure maintenant, sur plusieurs dizaines de mètres. Le tapis de bitume s'est cassé net et est tombé en contrebas où se trouvent des maisons. Des témoins affirment avoir vu plusieurs voitures tomber dans le vide, mais nous n'avons pas plus de précisions pour l'instant sur un éventuel bilan. La Turquie fait un pas de plus dans le bras de fer qu'elle a engagé avec les États-Unis. Dans un discours ce matin à Ankara, le président Recep Tayyip Erdogan a appelé au boycott des produits électroniques américains, notamment les iPhones, a-t-il précisé. Ces derniers jours, Erdogan avait accusé Washington de complot contre sa monnaie, alors que la livre turque poursuit sa dégringolade par rapport au dollar. C'est un résultat moins bon qu'espéré par le gouvernement. Le taux de chômage en France s'établit à la fin du deuxième trimestre à 9,1% en très très légère baisse de 0,1 point dans ce second trimestre selon l'INSEE. Un chiffre d'ailleurs à prendre avec des pincettes puisqu'il se situe dans la marge d'erreur de l'indicateur. Sur un an, la baisse est de 0,3 point. Ce sont les jeunes qui en profitent le plus avec un taux de chômage au plus bas depuis 10 ans pour les 15-24. 4 ans. Autre indicateur tombé ce matin, celui de l'inflation et les prix à la consommation ont bondi le mois dernier. Plus 2,3%, c'est au-delà de ce qui était attendu et c'est un plus haut depuis 2012. Alors que faut-il retenir de cette tendance à la hausse qui touche tous les consommateurs, qui nous touche tous? Nous allons poser la question à notre invité. Bonjour Alexis Garati.
Bonjour.
Vous êtes économiste au cabinet Euler Hermès. Alors première analyse de ce chiffre. Pourquoi l'inflation est-elle si haute aujourd'hui en France, on le rappelle, un plus haut depuis 6 ans?
En fait, ça reflète deux principaux éléments. D'une part, la bonne santé économique de la France et d'autre part, des éléments volatiles liés à l'inflation tels que l'énergie et les prix du tabac.
Alors l'énergie, on comprend les prix de l'essence, mais l'INSEE indique aussi que les prix des produits alimentaires sont en augmentation, plus 1,9%, comme ceux des produits frais, plus 6,4%. Est-ce que ça veut dire que la tendance est lourde?
La tendance n'est pas, je ne caractériserai pas la tendance comme étant lourde. Je ne considère pas ces chiffres d'inflation comme étant inquiétants. Nous considérons pour l'instant que l'inflation va atteindre son pic au mois de juillet et par la suite, nous attendons l'inflation orientée à la baisse pour converger progressivement à un niveau moyen en 2019 de l'ordre de 1,8%. Donc, ce que nous observons, en fait, c'est l'impact de chocs passés liés à l'énergie qui se transmettent progressivement à l'ensemble de l'économie. Et ce que nous voyons, donc, c'est l'impact passé de ces chocs-là. Et nous attendons donc une baisse progressive par la suite.
Ça veut dire que les prix de l'énergie, le prix de l'essence, par exemple, va baisser dans les prochains mois, ce qui va conduire à cette décrue de l'inflation?
Oui, tout à fait. Donc, sur l'ensemble de l'année, les prix de l'énergie ont augmenté de plus de 10%. Il faut se souvenir que en juillet 2017, le prix du pétrole était à hauteur de 50 dollars le baril pour le Brent et on atteint à l'heure actuelle des niveaux de 72 dollars le baril. Et donc, cette augmentation des prix de l'énergie s'est répercutée sur l'indice des prix à la consommation français. Et donc, on a observé depuis un ou deux mois déjà une baisse. On a atteint un pic à 80 dollars le baril il y a de cela deux mois de cela et donc on est déjà à 72 dollars et on attend une stabilisation en 2019 à 65 dollars le baril. Donc cette baisse des prix de l'énergie devrait se répercuter au niveau des prix de l'inflation dans les mois qui viennent.
Alors on l'a bien compris, hein, c'est donc une hausse conjoncturelle, mais c'est vrai que historiquement l'inflation est plutôt faible en France, était plutôt faible. Est-ce que ça perturbe un petit peu les plans économiques?
Non, je ne pense pas que ça va perturber par exemple les plans de la Banque Centrale Européenne qui va rester, comme on dit, extrêmement dovish, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être agressive en normalisant sa politique monétaire. Ce qu'il faut retenir avant tout de ces chiffres, c'est qu'ils reflètent la bonne santé économique de la France. Et donc, lorsqu'on regarde l'inflation sous-jacente, qui exclut tous ces éléments volatiles liés au tabac, à l'énergie, à la consommation, on observe que l'inflation sous-jacente est toujours mesurée, de l'ordre de 0,9%.
Néanmoins, Alexis, oui. Garati, les prix augmentent quand même malgré tout. Les salaires ne suivent pas forcément. Ça veut dire quand même concrètement une baisse, une perte de pouvoir d'achat. Est-ce que cette situation, est-ce que ce fossé peut durer?
Nous attendons en fait un rebond des salaires réels français dans la deuxième moitié de l'année 2018. Vous avez raison de souligner que la baisse des salaires réels français ont contribué à maintenir le rythme de la consommation à un niveau assez bas. On va observer avec la décrue de l'inflation, le phénomène inverse, l'accélération des salaires français va continuer en parallèle avec l'amélioration des conditions de l'emploi. Donc nous attendons une accélération des salaires et nous attendons en même temps une décrue de l'inflation. Ces deux facteurs devraient contribuer à booster dans un certain sens les salaires réels français et c'est pour ça que nous attendons une contribution, disons, supérieure de la consommation française à la croissance dans les mois qui viennent, ce qui devrait justifier un rebond dans la deuxième moitié de l'année.
Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup Alexis Garati, économiste au cabinet Euler Hermès, pour cet éclairage dans le 13h sur France Inter. Ce n'est pas encore la fin du voyage pour l'Aquarius. Loin de là, le navire de l'ONG SOS Méditerranée avec 141 migrants à bord n'a toujours pas trouvé de port où accoster. Ni Malte, ni l'Italie, ni l'Espagne, ni la France ne veulent l'accueillir, malgré les propositions du port de Sète dans l'Hérault et la Corse. Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, a renouvelé ce matin son offre d'accueil, comme il l'avait fait en juin dernier. Mais pour l'instant, l'Élysée n'a pas donné suite. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
On a l'impression de revivre vraiment le même épisode qu'en juin dernier, quand Emmanuel Macron n'arrivait pas à trancher au risque d'entretenir le flou. Est-ce que ça veut dire que les leçons de ce premier épisode n'ont pas été tirées?
Non, manifestement, deux mois après, Emmanuel Macron apparaît toujours aussi coincé, bloqué sur le sujet. Pourquoi? Parce que le président essaie de concilier deux positions qui ne sont tout simplement pas conciliables. D'un côté, il y a l'ancien candidat à l'élection présidentielle qui avait, souvenez-vous, salué l'hospitalité, la générosité de l'Allemagne d'Angela Merkel. Et puis de l'autre, il y a aujourd'hui un chef de l'État qui joue la fermeté parce que c'est ce que souhaite une majorité de Français. Cette ambiguïté participe désormais à faire chuter la cote de popularité du président Macron. Il n'y aura pas que l'affaire Benalla. Pour Jérôme Fourquet, le directeur du département Opinion de l'IFOP, l'électorat de droite notamment est en train de décrocher.
L'essentiel de cette baisse s'était produite avant même le déclenchement de l'affaire Benalla, qui a eu d'autres répercussions, notamment dans d'autres électorats. Mais à droite, la baisse était préalable donc à cette affaire. Et on peut penser, au regard des verbatims qu'on a pu recueillir, que la position alambiquée et assez confuse d'Emmanuel Macron au moment de la première affaire de l'Aquarius a jeté le trouble dans une partie de cet électorat de droite, ce qui a pu contribuer à une baisse de popularité.
Baisse de popularité de 9 points tout de même dans la dernière enquête IFOP entre juin et juillet. Emmanuel Macron essaie donc sans doute en ce moment de gagner du temps. En tout cas, ce matin à l'Élysée, c'était silence radio sur le sujet. Plus personne ne parlait.
Et donc, l'Aquarius dans l'impasse pour l'instant et sa situation se complique un peu plus avec l'annonce de Gibraltar de retirer son pavillon au bateau. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Le territoire britannique explique que la mission du navire n'est pas conforme avec ce qui était prévu au départ.
Et l'Aquarius est enregistré depuis 2009 à Gibraltar en tant que navire de recherche. Mais depuis début 2016, l'association SOS Méditerranée utilise ce bateau pour secourir les migrants en mer uniquement sous la responsabilité des autorités italiennes, explique le gouvernement de Gibraltar. C'était l'administration maritime du territoire britannique a demandé à l'Aquarius de suspendre ses opérations de sauvetage pour revenir, dit-elle, à son activité initiale. Une décision motivée par la politique du nouveau gouvernement italien qui, vous le savez, refuse d'ouvrir ses ports aux navires affrétés par des ONG. Mais SOS Méditerranée a repris ses activités de sauvetage sans obtenir le feu vert de Gibraltar. Conséquence, les Britanniques ont ordonné à l'Aquarius de retirer son pavillon d'ici le 20 août. À cette date, le bateau quittera donc le registre naval de Gibraltar et devrait retourner dans celui de son propriétaire, à savoir l'Allemagne. Alors en théorie, il est possible de naviguer sans pavillon, mais avec de nombreux risques juridiques. L'Aquarius se retrouverait dans ce cas de figure sans nationalité, sans protection et pourrait être saisi par les autorités maritimes européennes. Mais pour l'instant, cette hypothèse reste peu probable. En attendant, Gibraltar demande aux ports les plus proches de remplir leurs obligations et de permettre à l'Aquarius de débarquer dès que possible.
Merci Yann Gallic pour ces détails. Jamais l'armée américaine n'a eu autant de moyens. Donald Trump a donné son accord pour un budget record de 716 milliards de dollars pour l'année prochaine. Une signature dans une base militaire de l'État de New York et devant une immense bannière étoilée. C'est une augmentation de 7% par rapport à cette année. Alors juste pour mesurer l'énormité du chiffre, cela représente presque le double des dépenses totales de la France sur une année. En tout cas, c'est un geste fort fait par le président américain, comme le détaille Corentin Célin, professeur spécialiste des États-Unis.
Donald Trump tient ses engagements de campagne. Il était l'homme qui allait réarmer les États-Unis. Il tient parole avec un budget en augmentation. Et c'est très important, évidemment, à 3 mois maintenant des élections de mi-mandat. Il apparaît une fois encore comme un homme politique qui tient ses promesses, surtout envers les États du Sud et de l'Ouest, où se trouvent beaucoup d'infrastructures militaires et qui donc bénéficieront de ce fort budget de la défense. Trump, qui a été élu sur la prophétie du déclin des États-Unis, veut montrer que les États-Unis sont, entre guillemets, de retour en écrasant le monde de leur suprématie militaire. Les États-Unis disposent de 11 porte-avions à propulsion nucléaire. Par exemple, la Chine, elle, ne dispose que d'un grand porte-avions en tout et pour tout. L'armée des États-Unis est présente aujourd'hui sur les 5 continents, sur tous les océans du globe. Cela demande un déploiement de puissance absolument invraisemblable.
Des propos recueillis par Claude Guibal du service Monde de France Inter. Une petite révolution dans l'aventure spatiale, mais un grand pas pour SpaceX. L'entreprise américaine va proposer des vols habités dès l'année prochaine. La NASA les a abandonnés en 2011. Au secteur privé maintenant de se charger de construire des navettes plus modernes, moins coûteuses. SpaceX devient sous-traitant de l'agence américaine. La firme va proposer un vol à vide au mois de novembre, avant donc un vol avec des astronautes l'an prochain. Ces astronautes qui ont été présentés dans la banlieue de Los Angeles au siège de SpaceX. Pierrick Laurent a assisté à ce show.
Ils sont les héros du jour, applaudis par plusieurs centaines d'employés. Au milieu des machines, dans un décor de science-fiction, les 4 astronautes américains font leur apparition sur scène.
Avoir la possibilité de faire partie du premier vol en tant que pilote test est une opportunité qui ne se présente qu'une fois. Donc évidemment, je suis extrêmement reconnaissant.
Cet astronaute aguerri participera en avril au premier vol test à bord du Dragon Crew. Une capsule conçue par SpaceX est née d'un contrat à 2,3 milliards d'euros signé avec la NASA. Un vol commercial avec des passagers, une première dans l'histoire spatiale et un enjeu énorme pour SpaceX, en concurrence directe avec Boeing sur un marché très prometteur. Benji Reed est le directeur de la mission.
Chaque fois que l'on s'assied et qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, quel genre de test doit-on mener, on se demande aussi, est-ce que moi je volerai dans cet engin? Est-ce que je mettrai ma famille dans cet appareil?
La sécurité est un élément clé pour une société qui construit sa réputation. SpaceX mise aussi sur un design innovant avec des écrans tactiles et des combinaisons ultra fines. Si tout se passe comme prévu, ce vol test sera suivi l'an prochain d'une première mission qui emmènera 2 autres astronautes jusqu'à la Station Spatiale Internationale. À Los Angeles, Pierrick Laurent pour France Inter.
Vous avez peut-être vu cette photo émouvante et triste à la fois. Cette maman orque qui pousse au bout de son nez le corps de son bébé mort seulement 30 minutes après sa naissance. Elle a accompagné le cadavre de son petit pendant 17 jours sur 1600 km dans les eaux de l'ouest du Canada, comme pour faire le deuil de cette tragédie que vit ce groupe de cétacés. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Oui, tragédie parce qu'aucune naissance viable n'a eu lieu ces 3 dernières années chez les orques.
En effet, derrière cette histoire poignante se cache une réalité. La mauvaise santé des orques du Sud, un groupe de 76 individus suivis par les scientifiques au large des côtes ouest du Canada près de Vancouver. Les orques perdent du poids et depuis un an, aucun petit n'a survécu à la mise bas. Sur les 20 dernières années, le centre de recherche sur les baleines a compté 40 naissances et 72 décès. Les orques ne se reproduisent que tous les 3 ou 4 ans et un petit sur 2 seulement atteint son premier anniversaire, d'où la menace qui plane sur la survie de ce groupe. Ces animaux se nourrissent presque exclusivement de saumon chinook, le plus grand saumon américain. Surpêché, victime de la pollution, il est aujourd'hui, lui aussi, en danger de disparition. Les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve en mer sont aussi des bombes à retardement pour ces deux espèces. Chez la mère orque, il pourrait expliquer l'accompagnement inhabituellement long de son petit mort, 17 jours au lieu d'un ou deux habituellement. Les scientifiques se demandent si un taux anormal de prolactine, l'hormone de l'allaitement, a pu perturber le comportement du cétacé.
Merci Sophie Becherel. À 13h18 sur France Inter, on revient sur cet accident du côté de Gênes en Italie, le viaduc de l'autoroute A10 qui s'est effondré. C'était vers midi sur 10 mètres. Un tapis de bitume qui s'est cassé net et qui est tombé en contrebas. Bonjour Antonino Gallofaro.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis Rome. Antonino, on craint de très nombreuses victimes.
Alors oui, les premiers témoignages parlent déjà de dizaines de morts. Des véhicules se trouvent dans les débris, des dizaines selon la télévision publique. Sur des images amateurs, on peut voir des pompiers aider des survivants. Sur d'autres, un camion arrêté au bord du pont écroulé ou encore les phares allumés d'une voiture sous les décombres. Ce sont plusieurs dizaines de mètres de viaduc de l'autoroute A10 qui se sont effondrés. Les deux voies, près de 200 mètres de route pour une chute d'une centaine de mètres. Le viaduc est tombé sur une zone habitée où passent aussi des routes ou une voie ferrée. Et les débris seraient tombés aussi sur un immeuble, selon les premières informations des pompiers. Pompiers, mais aussi police, ambulance, les secours sont arrivés sur place une quinzaine de minutes après le drame, vers 11h. Les secours travaillent sous une pluie battante. Ils doivent parcourir les centaines de mètres de ponts détruits d'un viaduc qui mesure plus d'un kilomètre au total. Et selon les premières informations toujours, ce serait une défaillance structurelle de l'un des piliers du viaduc qui serait à l'origine du drame.
Merci beaucoup Antonino Gallofaro depuis Rome pour ces dernières précisions concernant cet spectaculaire accident à Gênes, en Italie. 13h20 sur France Inter, c'est l'heure des prévisions météo signées Jean-Pierre Hameau et après les nuages de la matinée, place au soleil.
Les éclaircies reviennent en force cet après-midi dans la plupart des régions. Des éclaircies très larges le long des côtes d'Opale et d'Albâtre, sans oublier les plages vendéennes, charentaises et landaises. En revanche, le temps reste instable avec des averses orageuses des Alpes-Maritimes à la Haute-Corse. À noter un peu plus de nébulosité en Bretagne, mais le temps reste sec et lumineux et quelques averses isolées le long de la façade est. Mistral et Tramontane soufflent jusqu'à 80 km par heure. Du coup, vous allez profiter d'un franc soleil du Languedoc-Roussillon à la basse vallée du Rhône. Les températures sont en sensible hausse avec des maximales généralement comprises entre 22 et 29 degrés et jusqu'à 31 degrés dans le sud.